Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 1, chapitre 6. Sommaire. Tous les physiciens s'accordent à regarder les contraires comme des principes. Parménide, Démocrite. Les contraires sont en effet des principes. Démonstration de cette théorie qui est exacte. Considération générale sur les contraires. Conciliation des différents systèmes. Les principes sont nécessairement contraires entre eux. Paragraphe 1. Tous les physiciens, sans exception, regardent les contraires comme des principes. C'est l'opinion de ceux qui admettent l'unité de l'être, quel qu'il soit, et son immobilité. Comme Parménide, qui prend pour ses principes le froid et le chaud, qu'il appelle la terre et le feu. C'est l'opinion de ceux qui admettent le rare et le dense, ou, comme le dit Démocrite, le plein et le vide. L'un de ces contraires étant l'être aux yeux de ces philosophes, et l'autre le non-être. Enfin, c'est l'opinion de ceux qui expliquent les choses par la position, la figure, l'ordre, qui ne sont que des variétés de contraires. La position étant, par exemple, en haut, en bas, en avant, en arrière. La figure étant d'avoir des angles, d'être sans angle, d'être droit, circulaire, etc. Ainsi, tout le monde s'accorde, de façon ou d'autre, à reconnaître les contraires pour principe. Paragraphe 2. C'est d'ailleurs avec toute raison, car les principes ne doivent ni venir les uns des autres réciproquement, ni venir d'autre chose. Et il faut, au contraire, que tout le reste vienne des principes. Or, ce sont là précisément les conditions que présentent les contraires primitifs. Ainsi, en tant que primitifs, ils ne dérivent pas d'autre chose, et en tant que contraires, ils ne dérivent pas les uns des autres. Mais il faut voir, en approfondissant encore cette théorie, comment les choses se passent. Paragraphe 3. Il faut poser d'abord cet axiome que parmi toutes les choses, il n'y en a pas une qui puisse naturellement faire ou souffrir au hasard telle ou telle action de la part de la première chose venue. Une chose quelconque ne peut pas venir d'une autre chose, à moins qu'on entende que ce ne soit d'une manière purement accidentelle. Paragraphe 4. Comment, par exemple, le blanc sortirait-il du musicien ? À moins que le musicien ne soit un simple accident du blanc ou du noir. Mais le blanc vient du nom blanc, et non pas du nom blanc en général, mais du noir et des couleurs intermédiaires. De même, le musicien vient du nom musicien, mais non pas du nom musicien en général, mais il vient de ce qui n'a pas cultivé la musique, ou de tel autre terme intermédiaire analogue. Paragraphe 5. D'autre part, une chose quelconque ne se perd pas davantage dans une chose quelconque. Ainsi, le blanc ne se perd pas dans le musicien, à moins que ce ne soit encore en tant que simple accident. Mais il se perd dans le nom blanc, et non point dans un nom blanc quelconque, mais dans le noir, ou telle autre nuance de couleur intermédiaire. Tout de même, le musicien se perd dans le non-musicien, et non point dans un non-musicien quelconque, mais dans ce qui n'a pas cultivé la musique ou dans tel autre terme intermédiaire. Paragraphe 6. Cet axiome s'applique également à tout le reste, et les termes, qui ne sont plus simples mais composés, y sont pareillement soumis. Mais en général, on ne tient pas compte de tous ces rapports parce que les propriétés opposées des choses n'ont pas reçu dans le langage de dénomination spéciale. Paragraphe 7. Car il faut nécessairement que ce qui est organisé harmonieusement vienne de ce qui n'est pas organisé, et que ce qui n'est pas organisé vienne de ce qu'il est. Il faut, en outre, que l'organisé périsse dans l'inorganisé, et non point dans un inorganisé quelconque, mais dans l'inorganisé opposé. Paragraphe 8. Peu importe qu'on parle ici d'organisation, ou d'ordre, ou de combinaison des choses. Évidemment, cela revient toujours au même. Ainsi, la maison, pour prendre cet exemple, ou la statue, ou telle autre chose, se produisent absolument de même. La maison vient de la combinaison de telle matière qui n'était pas antérieurement réunie de telle façon, mais qui était séparée. La statue ou toute autre chose figurée vient de ce qui était antérieurement sans figure. Et de fait, chacune de ces choses n'est qu'un certain ordre ou une certaine combinaison régulière. Paragraphe 9. Si donc cette théorie est vraie, tout ce qui vient de naître naît des contraires. Tout ce qui vient à se détruire se résout en se détruisant dans ses contraires ou dans les intermédiaires. Les intermédiaires, eux-mêmes, ne viennent que des contraires. Et par exemple, les couleurs viennent du blanc et du noir. Par conséquent, toutes les choses qui se produisent dans la nature ou sont des contraires ou viennent des contraires. Paragraphe 10. C'est jusqu'à ce point que sont arrivés comme nous la plupart des autres philosophes, ainsi que nous venons de le dire. Tous, sans peut-être en avoir d'ailleurs logiquement bien le droit, appellent du nom de contraire les éléments et ce qu'ils qualifient de principes. Et l'on dirait que c'est la vérité elle-même qui les y force. Paragraphe 11. La seule différence entre eux, c'est que les uns admettent pour principe des termes antérieurs et les autres des termes postérieurs. Ceux-ci des idées plus notoires pour la raison, ceux-là des idées plus notoires pour la sensibilité. Pour les uns, c'est le froid et le chaud, pour les autres, le sec et l'humide, pour d'autres encore, le pair et l'impair. Pour d'autres, enfin, l'amour et la haine, qui sont les causes de toute génération. Mais tous ces systèmes ne diffèrent entre eux que comme je viens de l'indiquer. Paragraphe 12. J'en conclus que tous en un sens s'accordent et qu'en un sens, tous se contredisent. Ils se contredisent sur les points où le voit du reste tout le monde. Mais ils s'accordent par les rapports d'analogie qu'ils soutiennent entre eux. Ainsi, tous s'adressent à une seule et même série. Et toute la différence, c'est que parmi les contraires qu'ils adoptent, les uns enveloppent et que les autres sont enveloppés. C'est donc à ce point de vue que ces philosophes s'expriment d'eux-mêmes et qu'ils s'expriment différemment. Les uns mieux, les autres moins bien, ceux-ci, je le répète, prenant des notions plus claires pour la raison, ceux-là des notions pour la sensibilité. Ainsi, l'universel est bien plus notoire pour la raison. C'est l'individuel qui l'est davantage pour les sens, puisque la sensation n'est jamais que particulière. Par exemple, le grand et le petit s'adressent à la raison, le rare et le dense s'adressent à la sensibilité. Paragraphe 13. En résumé, on voit clairement que les principes doivent être des contraires. Chapitre 7. Sommaire. Du nombre des principes. Les principes sont finis suivant Empédocle et infinis suivant Anaxagore. Il n'y a pas un principe unique et les principes ne sont pas infinis. Le système le plus vrai peut-être, c'est d'admettre trois principes. L'unité, l'excès et le défaut. Ancienneté de ce système, recherche de l'élément primordial. Paragraphe 1. Pour faire suite à ce qui précède, on peut rechercher si les principes de l'être sont au nombre de 2, de 3 ou davantage. Paragraphe 2. D'abord, il est impossible qu'il n'y en ait qu'un seul, puisque les contraires sont toujours plus d'un. Paragraphe 3. Mais il est impossible, d'autre part, qu'il soit en nombre infini, car alors l'être serait inaccessible à la science. Paragraphe 4. Et dans tout genre qui est un, il n'y a qu'une seule opposition par contraire. Or, la substance est un genre qui est un. Paragraphe 5. Mais les choses peuvent bien venir aussi de principes finis. Et si l'on en croit Empédocle, il vaut mieux qu'elles viennent de principes finis que de principes infinis, car il croit pouvoir expliquer par des principes finis tout ce qu'Anaxagore explique avec ses infinis. Paragraphe 6. Il y a en outre des contraires qui sont antérieurs à d'autres contraires, et il y en a qui viennent de contraires différents. Ainsi, le doux et l'amer, le blanc et le noir. Mais quant aux principes, ils doivent toujours rester immuables. Paragraphe. Je tire de tout ceci la conclusion, d'une part, qu'il n'y a pas un principe unique des choses, et d'autre part, que les principes ne sont pas en nombre infini. Paragraphe 8. Du moment que les principes sont limités, il y a quelques raisons de supposer qu'ils ne peuvent pas être seulement deux, car alors on pourrait également se demander où, comment la densité peut jamais faire quelque chose de la rareté, ou à l'inverse, comment la rareté produirait jamais la moindre action sur la densité. Et de même pour toute autre opposition par contraire. Par exemple, l'amour ne peut pas se concilier la haine, ni en tirer quoi que ce soit. Pas plus que la haine ne peut rien faire de l'amour. Mais tous les deux agissent sur un troisième terme qui est différent de l'un et de l'autre, et voilà pourquoi certains philosophes ont imaginé plus de deux principes pour expliquer le système entier des choses. Paragraphe 9. Une autre difficulté qu'on rencontrerait si l'on refusait d'admettre qu'il y a une nature différente servant de support au contraire, c'est que, comme l'observation nous le démontre, les contraires ne sont jamais la substance de rien. Or, le principe ne peut pas du tout être l'attribut de quoi que ce soit, car alors il y aurait un principe du principe, puisque le sujet est principe et qu'il est antérieur à ce qui lui est attribué. Paragraphe 10. De plus, nous soutenons que la substance ne peut être contraire à la substance. Et alors, comment la substance pourrait-elle venir de ce qui n'est pas substance? Et comment ce qui n'est pas substance serait-il antérieur à la substance même. Paragraphe 11. Il résulte de ceci que si l'on admet à la fois l'exactitude de notre premier raisonnement et l'exactitude de celui-ci, il faut nécessairement, pour sauver la vérité des deux, admettre un troisième terme outre les deux contraires. Paragraphe 12. C'est du reste ce que font les philosophes qui constitue l'univers avec une nature et un élément unique, prenant l'eau ou le feu, ou un élément intermédiaire. Paragraphe 13. Mais il nous semble que c'est plutôt à cet intermédiaire qu'il faudrait prêter ce rôle, puisque le feu, la terre, l'air et l'eau sont toujours entremêlés de quelques contraires. Aussi, on peut ne pas trouver déraisonnables ceux qui pensent que le sujet est encore quelque autre chose que les éléments. Puis viennent ceux qui prennent l'air pour premier principe, car l'air est celui de tous les éléments dont les différences sont le moins sensibles. Puis enfin, ceux qui prennent l'eau pour principe de tout. Paragraphe 14. Mais tous ces philosophes s'accordent à transformer leur principe unique par des contraires, tels que la rareté, la densité, le plus, le moins. Et comme nous le faisions remarquer un peu plus haut, ce n'est là, en résumé, qu'excès ou défaut. Paragraphe 15. C'est du reste, je crois, une opinion fort ancienne que de trouver dans l'excès ou le défaut tous les principes des choses. Seulement, tout le monde n'entend pas ceci de la même manière, car les anciens prétendaient que ce sont les deux derniers qui agissent et que c'est l'unité qui souffre, tandis que quelques-uns des philosophes postérieurs avancent au contraire que c'est bien plutôt l'unité qui agit et que les deux autres ne font que souffrir son action. Paragraphe 16. Ce sont ces arguments-là et des arguments analogues qui donneraient à penser, non sans raison, que les éléments sont au nombre de trois comme nous venons de le dire. Paragraphe 17. Mais on ne peut aller jusqu'à soutenir qu'ils sont plus de trois, car d'abord l'unité suffit à souffrir les contraires. Paragraphe 18. Puis, si l'on admet qu'ils sont quatre, il y aura dès lors deux oppositions par contraire, et il faudra en outre pour chacune d'elles séparément, une autre nature intermédiaire. Or, s'ils peuvent, en étant simplement deux, s'engendrer l'un par l'autre, il y a par conséquent l'une des deux oppositions qui devient parfaitement inutile. Paragraphe 19. Enfin, il est également impossible qu'il y ait plus d'une seule opposition primordiale par contraire, car la substance étant un genre unique de l'être, les principes ne peuvent différer entre eux qu'en tant que les uns sont postérieurs et les autres antérieurs. Mais ils ne diffèrent plus en genre, un genre ne pouvant jamais contenir qu'une seule opposition, et toutes les oppositions pouvant en définitive être ramenées à une seule. Paragraphe 20. Ainsi, évidemment, il ne se peut pas qu'il n'y ait qu'un élément unique. Il ne se peut pas non plus qu'il y en ait plus de deux ou trois. Où est ici le vrai? C'est ce qu'il est très difficile de savoir, ainsi que je l'ai dit.